Vous écoutez
RMC.
Allez, dossier réglé, il est 20h12 sur RMC, la nuit de l'after a démarré avec Kevin Diaz, Elton Mokolo, Walid Acherchour, on est sur France-Maroc et on va débattre du milieu de terrain, le match va-t-il se gagner au milieu, c'est l'avis de Nasser Larguette, l'ancien DTN du Maroc.
Là où je pense qu'il va y avoir vraiment débat et combat, je crois que c'est au milieu de terrain. Je pense qu'on a un milieu de terrain, si jamais Tchouaméni ne joue pas, je pense avec Koné puis Rabiot, qui sont des joueurs, je dirais, qui sont des bons joueurs, mais avec Tchouaméni, ça donne encore une force supplémentaire. Mais les trois milieux de terrain, avec Boadi, avec El Hanaoui, avec Ounahi, ça fait vraiment un trio qui est capable de rivaliser dans ce milieu de terrain. Et j'ai l'impression que ça va se jouer là, dans ces postes de milieu de terrain. Et en plus, si jamais Khanous ou Talbi sur un côté, moi je pense qu'ils sont capables de rivaliser sur le côté droit de l'équipe de France. Je pense qu'il peut y avoir un duel à 50-50. De l'autre côté, la même chose avec Digne ou Hernandez sur le côté, avec un garçon comme Brahim Diaz, il va y avoir quand même du 50-50 aussi là. Donc, et moi, c'est pour ça que je dis, c'est un match qui va être pour moi très équilibré, et l'équipe qui va prendre l'ascendant au milieu de terrain va avoir des chances, ouais. Va avoir des chances dans ce match-là.
Nasser Larguette dans Rotten sans flamme. El Aïnaoui, Boadi, Ounahi d'un côté, Rabiot, Tchouaméni ou Koné avec Olise de l'autre. Est-ce qu'on a la confirmation d'un forfait de Tchouaméni, Jean-Louis, ou pas?
Non. Non, pas d'un forfait. Moi, je pense qu'il sera dans le groupe d'ailleurs. Deschamps a dit ce matin qu'il allait mieux, qu'ils allaient faire un point. Donc, dans deux heures, il y a l'entraînement de veille de match. Je pense qu'il fera l'entraînement collectif et qu'il sera donc dispo pour être dans le groupe, sachant que c'est le premier entraînement collectif qu'il fait depuis une petite semaine maintenant. Donc, je pense qu'il sera trop juste pour débuter le match, mais qu'il sera dans le groupe quand même. Et donc, Deschamps a dit qu'il allait quand même surveiller encore l'évolution dans les heures qui venaient.
C'est mieux Tchouaméni ou Koné? Il y a une vraie différence.
Tchouaméni pour moi. Il y a encore une avance de Tchouaméni et ça s'est ressenti sur le match contre le Paraguay.
Qu'est-ce qui t'apporte de plus par rapport à Koné?
La solidité défensive. Et il y a quelque chose qui pour moi a été inexploité de la part de Manu Koné, c'est la qualité de passe. Parce que Tchouaméni, notamment par son jeu long, il peut trouver rapidement un joueur. Il peut avoir cette qualité de passe qui peut faire avancer le jeu. Manu Koné, c'est beaucoup plus dans la percussion.
Moi je pense que Tchouaméni.
Ouais, mais si je peux me permettre, juste le match du Paraguay, je suis pas sûr qu'on puisse en tirer des enseignements tellement il était particulier. Et sur les qualités des joueurs, moi je pense comme vous, hein, que Tchouaméni a de l'avance, mais je prendrais pas le Paraguay comme marqueur pour dire Manu Koné a perdu des points. C'est tellement particulier comme
après,
match.
Jean-Louis,
et justement l'équilibre défensif.
C'est un match éliminatoire, Jean-Louis. C'est un match éliminatoire.
Ah, bien sûr, mais on n'a pas vu qu'il y avait un manque d'équilibre défensif par l'absence de Tchouaméni sur le match du Paraguay.
Oui,
tu vois.
Parce que de toute façon ils n'ont même pas essayé.
Bah oui, ils ont jamais attaqué.
Là où je suis d'accord avec toi, Jean-Louis, c'est que même avec Tchouaméni, t'aurais eu des soucis, moi, je pense, dans la construction.
Voilà, je suis d'accord.
Maintenant, moi, je trouve la paire Tchouaméni-Koné ou Tchouaméni-Rabiot beaucoup plus complémentaire que Koné-Rabiot.
Ça, je suis d'accord.
Parce qu'il y a un.
Ça, je suis d'accord. Et surtout quand tu joues avec les quatre attaquants et même Koundé qui monte beaucoup, t'as besoin d'un vrai 6.
Parce que Tchouaméni est le vrai 6 stabilisateur, ce que n'est plus Rabiot, ce que n'a jamais été Rabiot, et ce que n'est pas non plus Manu Koné, qui a besoin de liberté dans son expression footballistique. Et moi, je pense que Tchouaméni, on dit souvent que les absents ont toujours tort. Là, il a eu quand même globalement raison. Et de toute façon, même avec une victoire 3-0 facile contre le Paraguay, je pense que Tchouaméni, s'il est à 100%, c'est le premier nom cité au milieu de terrain chez Didier Deschamps.
Alors maintenant, si on fait le match des milieux de terrain, d'accord avec Nasser Larguette qui dit que c'est là que ça va se jouer, Kevin?
Bon, on avait dit entre les Pays-Bas et le Maroc que ça allait jouer au milieu de terrain. Ça s'est pas forcément joué uniquement au milieu de terrain parce que ça a été plus les intentions des Marocains qui ont été récompensés. Alors même si ça reste le pénalty, mais les Marocains ont quand même plus eu envie d'aller vers l'avant. Moi, pour moi, c'est pas forcément le milieu de terrain. Pour moi, c'est le plan de jeu. Est-ce que tu vas, en tant que sélectionneur marocain, est-ce que Wahbi va assumer un plan de jeu pour défendre à 50 mètres de son but avec Kylian Mbappé en menace, en mode les dents de la mer?
En tout cas, ils vont pas faire bloc bas comme il y a 4 ans.
Attention, parce que contre les Pays-Bas, il y a eu certaines phases où ils ont été bloc bas. Et même oui, contre, par phase, c'est possible, même contre le Canada. Mais est-ce qu'ils vont aller chercher les Français à 0-0 ou est-ce qu'ils vont les attendre? C'est plus là que va être le débat. Parce que aujourd'hui, l'équipe de France, ça reste une équipe de transition. Ils savent faire un peu mieux avec les passes et la qualité technique hors du commun de Michael Olise. Ils arrivent dans les petits espaces quand même à être bons, notamment. Bon, Dembélé le fait aussi avec le PSG. Mais leur arme fatale, ça reste quand même quand il y a au moins une moyenne profondeur. Je ne vais pas parler de grande profondeur. Donc on ne parle pas d'une défense au milieu de terrain. Mais aujourd'hui, Kylian Mbappé dans cette forme-là, il est inarrêtable. On l'a vu d'ailleurs contre le Paraguay ou même en 16e de finale. Dès qu'il y a 20 mètres dans le dos de la défense, avec les passeurs qui sont en équipe de France, c'est mortel.
Après, si on prend l'hypothèse où Wabia assume ce plan de jeu ambitieux,
pour moi, c'est impossible.
Est-ce qu'ils peuvent nous prendre le ballon? Est-ce que ça, c'est possible?
Oui, c'est possible.
Mais on s'en fout parce que l'équipe de France, on est allé sans le ballon.
Non, mais c'est possible et je pense que l'équipe de France peut se satisfaire de cette physionomie de match, comme vient de le dire Kevin.
Moi, il faudra bien défendre.
Parce
qu'ils sont bons avec le ballon,
évidemment. Il faudra bien défendre, mais je pense qu'on est sous Deschamps, on est beaucoup plus proche d'une équipe qui n'a pas le ballon qu'une équipe qui l'a dans les gros matchs. Donc et notamment sur le match contre le Maroc en demi-finale, si tu regardes bien, ils démarrent bloc bas avec une défense à 3 parce que Romain Saïss est blessé, donc ils doivent le couvrir. Sauf que leur plan de jeu est mort à la 5e minute avec la glissade et le but de l'équipe de France. Et après, derrière, ils se sont quand même nourris en termes d'espace parce que le Maroc devait revenir au score. Donc là, tout dépendant en fait de la physionomie de la rencontre, but, pas but.
Mais c'est deux équipes tellement différentes.
Bien évidemment, c'est deux équipes différentes. L'équipe de France n'est plus la même qu'en 2022 et le Maroc non plus. C'est pour ça que ce match, il est très excitant tactiquement parce que comme vient de le dire Nasser Larguet, il y a en fait des match-up dans cette rencontre où on est un peu indécis sur comment ça va se dérouler. Mais quoi qu'il arrive, moi je trouve que l'équipe de France a les solutions pour faire mal à mal au Maroc.
Sur le Maroc, le Maroc des milieux de terrain, c'est sa principale qualité et en même temps c'est sa principale limite, parce que quand je parle des milieux de terrain marocains, oui, il y a le trio, mais il y a des milieux de terrain déguisés. Je veux dire, t'as Eranous sur le côté gauche, t'as Saïbari, bon, on sait pas s'il sera là demain en tant qu'avant-centre, t'as Brahim Diaz et t'as même un Mazraoui. Ouais. Et ce qui est la principale qualité du Maroc, c'est ce côté imprévisible, cette capacité à cacher le ballon pour pouvoir mieux exploser. Et d'ailleurs, on voit le premier but où t'as Brahim Diaz qui lance Saïbari, c'est l'incarnation de tout ça. Mais pourquoi je dis qu'en même temps, c'est sa principale limite? Parce que à force de mettre des milieux de terrain, il y a aussi des milieux de terrain qui sont déguisés et qui n'ont pas des réflexes d'attaquant comme El Ranous, comme un Brahim Diaz qui va pas attaquer l'espace. Et ça peut être un danger. Qui va incarner la profondeur du côté du Maroc?
Si, El Ranous, il peut prendre la profondeur.
Et
Saïbari a pris la profondeur, notamment dans le premier match. En fait, le France-Maroc, il va ressembler au Brésil-Maroc. Est-ce que le
c'est
Maroc...
pas la même équipe quand même en France.
Oui, non mais bien sûr. Mais il y avait quand même du Vinicius, il y avait quand même de la qualité offensive. Mais est-ce que le Maroc va réussir à imposer son jeu comme ils l'ont fait contre le Brésil? C'est ça la vraie question.
Est-ce qu'ils vont vouloir surtout? Moi c'est la question. Parce qu'en fait, ça dépend de quel Maroc on parle. Ça dépend de quel Maroc on parle. Le Maroc contre les Pays-Bas, en face les Pays-Bas, ils ont enlevé un milieu de terrain. Il s'est adapté au Maroc parce qu'il l'a expliqué que Man. Et j'étais surpris, et ça montre encore une fois la puissance du Maroc, parce qu'il jouait avec Gravenberch, Reinders et De Jong, et qui normalement quand même est un milieu de terrain très très solide en Europe, Manchester City, Liverpool et le Barça. Il a enlevé Reinders, il a rajouté un défenseur de plus. Le Maroc a été en supériorité numérique par rapport à ce qu'évoquait Elton, parce qu'il n'y a pas que le 3+2, il y a tous ceux qui peuvent s'incorporer au milieu de terrain. Là, ce Maroc-là est capable de faire mal à l'équipe de France dans ce secteur. Maintenant, il y a le Maroc contre le Canada en première mi-temps, où ils ont été en grande difficulté pour relancer. Et ça va dépendre de qui tu vas avoir aussi dans cette équipe du Maroc. Est-ce que c'est le Bouadi face au Brésil ou le Bouadi face au Canada? Parce que le Bouadi, il a très très bien démarré le tournoi et c'est un peu plus compliqué. Je me demande même si Wabi va pas faire démarrer un Amrabat qui, dans ses dernières rentrées,
je n'écarte pas.
Pour le coup, c'est vraiment pas le même profil.
Maintenant, si on doit comparer les deux milieux de terrain, parce que la question c'était, et notamment Nasser Larguet qui parlait de cette bataille au milieu de terrain, si on doit parler que de papier, mais le football c'est pas que du papier, comme l'a dit Kevin, c'est un plan de jeu, c'est ce que tu fais avec les mecs d'en haut, les mecs d'en bas. Moi je pense que même si le Maroc a des très grandes ressources, il n'y a aucun joueur du Maroc qui serait titulaire en équipe de France au milieu de terrain pour moi. Et de l'autre côté, je pense que tous nos milieux de terrain en équipe de France seraient titulaires au Maroc.
Mais je suis pas sûr du tout.
Ah, moi,
ça dépend qui est le sélectionneur.
Mais
en
oui,
fait.
Bien évidemment, ça dépend qui est le sélectionneur. C'est vrai que c'est dur à comparer. Je dis juste que j'ai vu des compositions d'équipe là depuis 2-3 jours sur si on devait mixer les deux équipes. Le fameux jeu.
Hakimi.
Ce fameux jeu. Moi, pour moi, il y a Hakimi, Mazraoui et Bono. Bono Meignan. Parce que au milieu de terrain, moi, je pense par rapport. Après, tout dépend comme l'a dit Kevin.
Ce que tu veux faire.
Ce que tu veux faire.
Si tu veux le jeu du sélectionneur marocain, je suis pas sûr que tu mets forcément. Rabiot ou Koné ou même Tchouaméni.
Bien évidemment, mais après
parce que Tchouaméni c'est Amrabat en fait.
Juste qu'en valeur intrinsèque.
Tchouaméni c'est Amrabat.
Tchouaméni.
C'est Amrabat dans le style.
Oui. C'est-à-dire. Après c'est très très dur de calquer. Mais ce que je veux te dire c'est que par exemple El Aïnaoui qui est un très bon joueur, il est remplaçant de Manu Koné à l'AS Roma. Mm-hmm. Moi je pense que El Aïnaoui, je sais pas s'il est sélectionné par l'équipe de France.
Ayoub Bouadi a un profil très particulier qui peut séduire.
Oui,
quand même.
Mais Ayoub Bouadi n'était pas dans la liste, enfin de Didier Deschamps alors qu'il n'avait pas encore décidé du Maroc. On a un exemple concret. Moi je pense que Kanté, Warren Zaïre-Emery, Adrien Rabiot, Tchouaméni et Koné, je ne sais pas si ces joueurs-là peuvent rentrer dans cette liste. Ils ont la qualité, mais je ne sais pas s'ils pourraient être titulaires. Alors que j'ai la certitude qu'un demain, un Rabiot, un Tchouaméni, même un Warren Zaïre-Emery serait titulaire avec le Maroc. Non,
mais
maintenant,
c'est surtout qu'aujourd'hui, Walid, le vécu sélection de ces joueurs en équipe de France et le vécu club est incomparable avec celui du Maroc.
Maintenant, tout dépend.
Ouais, mais sur un potentiel, Ayoub Bouadi.
Bien évidemment, Ayoub Bouadi sur les 10 prochaines années, s'il avait choisi l'équipe de France, il serait.
Oui, mais les 10 prochaines années, peut-être elles commencent demain. Tu vois, c'est ça aussi le truc.
Mais je dis juste que Ayoub Bouadi sur la fin de, mais sur le déroulé de la Coupe du Monde, il est beaucoup plus proche du banc que du poste de titulaire. Mais encore une fois, tout ça est à mettre en contexte par rapport au plan de jeu, par rapport à ce que je dis pas que le Maroc avec ces éléments-là peut pas nous mettre en difficulté parce qu'ils l'ont fait contre le Brésil, ils l'ont fait contre les Pays-Bas. Mais si juste on prend sur la valeur brute. Parce que nous, on critique beaucoup notre secteur de milieu de terrain. Moi, je pense que si on compare, il faut quand même rester lucide sur nos forces en présence aussi et sur le vécu de certains joueurs dans cette équipe de France.
Et d'ailleurs, Jean-Louis, parce qu'on s'est posé la question de Saïbari et de sa présence, est-ce qu'on a des infos là-dessus?
Ce qu'on sait, c'est qu'il s'est pas entraîné du tout depuis sa blessure contre le Canada. Donc même hier, à l'entraînement où se trouvait Nicolas Pelletier, on l'a pas vu s'entraîner. Donc il reste encore aujourd'hui. Ils s'entraîneront un peu plus tard, les Marocains. Mais est-ce qu'avec un entraînement dans les jambes, et qui n'est même pas encore garanti, tu peux être titulaire en quart de finale de Coupe du Monde? Bon, il y a de quoi avoir un doute sur sa présence.
Moi, je pense pas, parce qu'en plus, il reviendrait, il a un jeu très énergivore, Saïbari, répétition des appels, il revient très souvent au milieu de terrain. Là, il faut une condition physique, mais à 100% pour exister face
et
à Raimi,
il est en grande forme.
Raimi depuis Haïti, c'est bien.
Il a mis ce but contre Haïti. Derrière, il a été aussi décisif sur les autres matchs.
Mais toi, tu trouves qu'il gagne au change?
Non, il gagne pas au change parce qu'en fait le plan de jeu de départ de Wahbi, c'est de mettre ce faux numéro 9 et c'est ce qui a fonctionné sur le début de tournoi.
Et en plus,
Saïbari a été très bon dans le contenu et dans l'efficacité. Dans un rôle, même si attention au PSV, il joue très très haut, mais c'est plus deuxième attaquant. Il est capable de jouer faux numéro 9, mais c'est une très belle idée de la part de Wahbi qui a été matérialisée. Maintenant, on l'a bien vu. Hein, attention, parce que la gestion de Romain Saïs en demi-finale de Coupe du Monde, t'as quand même coûté sur la première mi-temps. Faudra pas faire les mêmes erreurs. Il faut des joueurs à 100% aujourd'hui au très très haut niveau. Et je pense que Raimi est plus indiqué à démarrer, même si Saïbari aurait été un meilleur élément.
Jean-Louis, merci beaucoup. Jean-Louis, en direct.
Dernier truc, Pierrot, quand même. Pas d'annulation du carton de Michael Olise.
Oui.
On peut d'ailleurs s'en réjouir, hein, parce que globalement, on est tombé dans un délire depuis l'histoire balle au bout, mais c'est quand même normal que les cartons jaunes soient maintenus une fois qu'ils ont été mis. Mais l'équipe de France a tenté le coup quand même, voyant qu'on pouvait annuler des cartons, parce que c'est vrai quand même que Olise a pas fait grand-chose face aux Paraguayens, mais le carton a bien été maintenu, Deschamps l'a dit tout à l'heure, et donc il est sous la menace d'une suspension. S'il en prend un demain, il pourra pas jouer la demi-finale.
Emmanuel Macron n'a pas fait le contre-uno.
Et après, c'est remis à zéro après le quart de finale. Hein.
Ouais, c'est ça. Mais la menace planera quand même toujours demain. Mais après, ce sera bon pour une éventuelle finale.
D'ailleurs, toi, Elton, tu voudrais qu'on arrête avec les suspensions accumulation
parce que
de cartons.
C'est mon game changer. J'ai une révolution pour le football de demain en 2026. C'est un football 2026 qui est tellement intense, qui est tellement énergivore. Arrêtons avec les suspensions. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un préjudice sur le match même. En gros, t'as un carton rouge, t'as un préjudice qui est en fait vous êtes en infériorité numérique et le match suivant on redémarre à zéro.
Même le rouge.
Même le rouge. Ah
non,
même
non,
le rouge.
Non.
Si, Elton,
non.
Le jaune, oui,
Elton,
il n'est pas rouge.
Elton, Elton, reprends-toi.
Non, mais
attends,
laissez-le justifier ça. Tu réponds, Kevin.
Laissez-moi m'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Kansa est expulsé à la 55e minute contre le Mexique. Il passe 50 minutes au Stade Aztèque face au Mexique. Il y a un préjudice numérique.
D'accord.
Et moi, je ne comprends pas pourquoi, de manière philosophique, pourquoi l'adversaire suivant devra en tirer bénéfice.
Et si c'est à la 90e
et c'est 90e.
Si c'est Suarez face au Ghana.
Non, mais c'est pas...
Si c'est Suarez face au Ghana.
Non, mais, ça, c'est...
Oui.
Mais, c'est
pas... mais pourquoi l'adversaire suivant doit en bénéficier?
Non, c'est pas la même logique.
Si il met une droite, si il met une droite...
Alton, le joueur vicieux que je suis, sans même parler d'aller mettre une droite, le joueur vicieux que je suis ou que j'étais, il reste 5 minutes. Tu pars tout seul au but, mais je te balaye. En fait.
Non, mais attends, tu peux très bien imaginer.
Parce que mais toujours un préjudice.
Tu peux très bien. Un préjudice, il reste 5 minutes. J'ai pas de préjudice. Le préjudice, c'est du mégalisme.
Mais attends, Kevin, tu peux très bien imaginer que les cas sont étudiés. En fait, que la suspension n'est pas automatique et qu'en fonction de la gravité de la faute ou de l'intention.
Parce qu'aujourd'hui.
Ça, ok, mais c'est pas le game changer qui nous a été vendu.
Non, mais Jean-Luc, je vais t'expliquer.
La bande-annonce est beaucoup plus impactante que le film.
Aujourd'hui, on aboutit à quoi? On aboutit à des situations ridicules où il y a des fédérations qui essayent d'éliminer, d'enlever des cartons. Je fais pourquoi il y a des joueurs qui devraient jouer, notamment avec la trouille, de prendre un carton jaune.
Non, mais carton jaune, je te suis. Sur les cartons jaunes, mais pas les cartons rouges.
On en avait parlé à la CAN, notamment en fait, où c'était quoi l'histoire? C'était dans les demi-finales. Les demi-finales Sénégal-Égypte. Voilà, en fait, sur les demi-finales, tu pouvais avoir l'accumulation de cartons jaunes, et en fait, pour l'essor de la compétition, en fait, tes meilleurs joueurs, t'allais pas les avoir sur les demi-finales et sur les finales.
Mais c'est pour ça que maintenant, c'est remis à zéro après l'écart pour éviter qu'en finale, t'aies trop de
suspendus. Mais moi, sur les cartons jaunes à répétition, c'est-à-dire avoir 2-3 cartons jaunes et ne pas faire la demi-finale ou la finale, ou le quart de finale, ça pour moi je peux être de ton côté.
Mais non,
par contre le rouge ici,
Le rouge, Kevin qui est différent.
Non mais c'est pareil, même les cartons jaunes, t'es obligé de les laisser. Sinon tu vas avoir beaucoup trop de cartons jaunes parce que les mecs ils savent qu'ils peuvent faire des fautes grossières.
Après quand tu prends un carton jaune, t'es menacé dans la rencontre.
Il reste 5 minutes. Je vais faire que des fautes. Toute l'équipe va faire des fautes. Des tirages de maillot grossier.
Une sortie provisoire de 5 minutes pour un carton jaune.
Ça, c'est l'idée de coach Courbis.
Non, mais je vais vous dire, le problème,
on lui rend hommage, on est dans le studio.
C'est que Kevin Diaz incarne ce football conservateur, ce football qui ne veut pas évoluer. On est en 2026. On demande aux acteurs d'aller beaucoup plus haut. Si tu veux,
En 2026, il y a un blockbuster qui existe et qui s'appelle la Kings League. Il y a des cartons, des présidents qui rentrent.
Il faut évoluer avec son temps.
Tu peux aller voir ça si tu veux.
En parlant de Kings League, j'y ai pensé sur le penalty de Bruno Guimaraes de faire rentrer le président Neymar.